Amis auditeurs, bonjour, c'est Sophie sur Radio Sud Plus. Dans notre émission du jour, Page en Partage, j'ai la chance de recevoir Dominique Maraval de Bonnery. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Voilà, donc il est là pour nous présenter son livre qui s'appelle « Crosse en l'air » et qui a été publié chez Orphie. Et on peut le dire d'emblée, bah, ce livre a été finaliste pour le prix Vanille, était bien classé. Donc les résultats sont tombés tout récemment, vous pouvez en être fiers.
Oui, enfin, j'aurais été plus fier si j'avais remporté le prix.
Mais quand même. Alors, vous avez aussi eu un prix qui s'appelle le prix Daniel Bayon. Donc
oui,
dans...
ça, c'est les journées littéraires du Bourbonnais. Ça a eu lieu au mois de juin dans l'Allier. Parce que l'Allier, c'est la province du Bourbonnais. Et ça se passait à Janigny. C'est le village natal de René Fallet. René Fallet, l'auteur de Un idiot à Paris, La soupe aux choux, grand copain de Brassens, à qui faisait des fêtes innommables dans le village.
Donc c'est un livre qui commence à se faire remarquer, qui est lu, donc c'est ça qui est chouette. Donc pour vous, vous êtes auteur, mais bon, j'ai moins besoin de vous demander pourquoi vous écrivez, puisque vous venez du milieu journalistique. Donc,
oui, mais c'est une écriture différente. C'est une écriture différente quand même. Alors j'étais journaliste, oui, j'ai commencé en presse écrite, en presse régionale à Clermont-Ferrand, à la montagne. Mm-hmm. Après, j'ai fait, je passe tous les divers établissements où je suis passé. Après, j'ai fait de la radio, toujours en local à Radio France, à Clermont-Ferrand. Et ensuite, je suis venu à La Réunion, où je travaillais également beaucoup dans le privé, Télé Freedom. Et en 88, je suis rentré à l'époque, ce qui s'appelait RFO.
Alors peut-être, oui, que des gens reconnaîtront votre voix, puisque c'est une voix qu'ils ont déjà entendue,
sans doute.
Sur les ondes. Donc c'est ce que les gens ici à la radio ont dit, ah, on connaît votre voix.
Voilà, c'est une voix assez reconnaissable, ce qui m'a coûté de temps en temps des ennuis, parce qu'au lycée, quand il y avait un chahut monstre de 100 personnes, à la fin, le surveillant général disait « Maraval, venez là, là, j'ai...
» On vous entend.
On vous entend
et on vous reconnaît. Oh, c'est plutôt une bonne chose. Alors, ce livre « Crosse en l'air », est-ce qu'on peut quand même donner des explications pour le titre, déjà, pour les gens qui...
« Crosse en l'air », c'est l'histoire des soldats français qui, pendant toute la guerre, ont été envoyés au casse-pipe, généreusement par les généraux de l'époque, et qui, au bout d'un moment, en ont eu marre. En 1917, ils se sont révoltés, ont dit « Non, on ne va plus à l'assaut, ça suffit ». Alors, pour signifier qu'ils refusaient de partir à l'assaut dans les tranchées, ils ont mis le fusil à l'envers, donc la crosse était en l'air, et c'était le signe de ralliement des mutins de 1917.
Voilà, donc le contexte s'est posé, c'est un livre qui va parler donc de ça, de la mutinerie de 1917.
Mais pas seulement,
donc voilà. Donc le contexte historique, c'est le début du siècle.
Oui, c'est à partir de la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Donc je retrace la vie de deux jeunes adolescents qui vont en 1914 s'engager dans l'armée. 2 ans avant l'âge nécessaire, parce qu'on pouvait s'engager à 20 ans. À 18 ans, ils ont voulu foncer pour foutre les Allemands dehors, d'Alsace et de Lorraine et tout. Bon, ils croyaient être revenus pour Noël 14, ils ont vite déchanté.
Oui. Alors, le Bourbonnais, c'est un endroit que vous connaissez bien, apparemment.
Donc,
c'est un endroit natif. Et puis, vous êtes aussi à La Réunion. Donc, on a un petit peu les deux. Donc, les deux, vous jouez aussi sur ces mots. Donc, c'est aussi intéressant. Pourquoi Orphie, d'ailleurs, je me suis posé la question. Vous auriez peut-être pu trouver un éditeur national.
Bon, à vrai dire, je n'ai pas cherché parce qu'on m'a proposé, Orphie. Enfin, quelqu'un qui connaissait M. Doyen Orphie. J'avais tellement galéré pour le premier, pour trouver un éditeur que je n'ai pas trouvé, parce que mon premier livre, j'ai été obligé de le faire à compte d'auteur. Donc là, quand ça s'est proposé, je n'ai pas cherché ailleurs. Mais le prochain livre, qui est sur la Deuxième Guerre mondiale, on m'a déjà averti qu'il ne serait pas publié chez Orphie. Donc, il faudra que je trouve un éditeur en métropole.
Donc, c'est quand même un sujet intéressant aussi pour La Réunion de savoir...
Qu'est-ce qui s'est passé à La Réunion pendant la Première comme la Deuxième Guerre mondiale, même si ça se passe pas ici. Mais pour les éditeurs, il faut absolument qu'il y ait une accroche avec La Réunion directe pour que ce soit édité ici.
Et est-ce que vous avez aussi trouvé des éléments ou c'est romancé ou comment
je me suis appuyé sur... j'ai écrit pour le prochain, là.
Non, en tout cas pour celui-là.
Bon, j'ai pas voulu dire que je m'étais inspiré de mon village, mais tous les gens du village m'ont dit
arrête. On a bien compris.
Arrête. Le mur du château côté du presbytère, c'est à Belle-Nave, c'est pas ailleurs.
D'accord.
Donc j'étais obligé d'avouer que je m'étais largement inspiré du village.
D'accord, d'accord. Ok. Alors, ce livre, pourquoi vous aviez eu envie d'écrire plus sur ce thème que sur un autre ? Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une mémoire familiale ? Est-ce qu'il y a des gens de votre famille qui avaient fait cette guerre ?
Mes deux grands-parents, mes deux grands-pères ont fait la guerre de 14, mm-hmm. mais ils n'ont pas fait partie des mutins de 17, parce que socialement, je suppose que ça ne rentrait pas dans leur ligne. Mais moi, je trouve qu'il y a une profonde injustice vis-à-vis de ces mutins de 17, parce que beaucoup de ces types-là, il y en a quand même 40 qui ont été fusillés, faut pas l'oublier, et 800 autres envoyés dans les bagnes. À Cayenne ou en France, parce qu'il y avait également des bagnes en France, on ne le sait pas, et en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est tous ces types-là qui souvent avaient des répertoires militaires assez bien fournis, parce qu'ils s'étaient... Mm-hmm. Il y en a qui étaient médaillés pour actes de bravoure et tout. Ben, ça n'a pas empêché que 40 ont été fusillés, et tous sont absents des monuments aux morts, ce que je trouve une injustice. Ouais. On devrait les réhabiliter. Alors il y avait une tentative, Jospin, quand il était Premier ministre, avait émis cette idée-là, et puis quand il a vu que tout le monde lui tapait dessus, il est rentré sous la table, il a vite abandonné. Et une autre anecdote, que ça, je l'avais demandé à Jospin s'il voulait faire la préface du bouquin, il m'a répondu...
Non, il n'a pas voulu se mouiller à nouveau.
Il n'a pas voulu se mouiller en disant « Non, je ne veux pas rallumer de vieilles querelles et tout. » Bon, tout ça pour dire que s'il n'avait pas plus de courage que ça... C'est pas étonnant qu'il ait jamais passé le premier tour des présidentielles.
Bon, ben voilà, ça c'est dit. Non, je me demandais si vous veniez d'une famille de militaires.
Oui, j'avais un oncle qui était général.
Vous
oui.
aviez aussi.
J'avais un oncle qui était général.
Travaillé dans l'armée ou des choses comme ça. Pas du tout.
Non,
donc,
non.
Voilà.
Bon, l'armée, je l'ai fait ici d'ailleurs.
Ah oui ?
Donc oui, j'ai fait à Saint-Denis, à la caserne Lambert.
Bon. Alors, on va parler un peu plus de ce livre. Donc, on a dit que c'était deux livres dans un livre. Hein.
La vie du village et la guerre.
La vie du village et la guerre. Donc, ça se passe à Fombelle. On a dit donc que le Bourbonnais, c'était aussi quelque chose qui vous tenait à cœur. Et puis, on a tout ce contexte historique. C'est presque un peu comme dans les films de Fernandel. Là, c'est les gens qui se battent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées.
Pour résumer, la première partie, c'est un peu Don Camillo, Pépin et Don Camillo à Fombelle. Et la deuxième partie, c'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick.
Oh bah alors là, comme ça, vous avez situé cinématographiquement.
Ceux qui ne connaissent pas Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, c'est un film à aller voir, justement, qui évoque les mutineries de 1917.
Donc on a aussi ces deux parties. Je voulais peut-être rentrer un petit peu dans les détails du texte, peut-être si vous êtes d'accord,
qu'on
pourrait lire un certain nombre de passages, puisque on est là aussi pour parler de ce livre. Donc au départ, on a ce contexte où on a le côté noble, la noblesse, l'ancienne noblesse de la ville, et puis l'autre, le côté anarchiste. Donc les gens se disputent, ne s'aiment pas, etc. Et il y a ces petites chicaneries
que je croyais avoir inventées. Et puis je me suis aperçu en parlant avec les anciens du village qui m'ont dit, tu sais, mes parents m'ont raconté exactement ce que tu racontes dans le bouquin. Tu n'as rien inventé, ça se passait comme ça. C'était ma grande surprise.
C'est fou ça. Donc par exemple, pour le Vendredi Saint.
Ah, ça, il existait.
Donc le maréchal Ferrand.
Je l'ai connu gamin, j'ai transposé 50 ans plus tôt.
Alors est-ce que je peux lire un petit passage donc, pour ce qui se passe le jour du
Vendredi,
du Vendredi Saint. Voilà. Alors, je ne sais pas où je vais commencer. Alors, loin d'apaiser l'allusion vise. Alors, loin d'apaiser son interlocuteur, cette analyse réductrice redouble d'ardeur vindicative du baron pour qui mauvais sang ne saurait mentir. L'allusion vise Floréal Bastien, donc ça c'est l'ennemi du baron, hein, ouais. Le meneur de cette bande de chenapans qui n'a de cesse de tourmenter les jeunes filles de l'école des sœurs. Un suppôt du diable de la pire espèce, rejeton du maréchal Ferrand, Germinal Bastien, fer de lance de l'alliance anticléricale de Fombelle. Un anarchiste qui déploie une imagination sans bornes pour perturber les célébrations religieuses avec une prédilection pour le Vendredi Saint. Ce jour-là, une serviette autour du cou, il se met à table sur un coin de trottoir et attend que la procession passe devant chez lui pour mâchouiller quelques rondelles de saucisson arrosé de vin rouge. Pour le baron, cette provocation répétée frôle les sommets du blasphème. Tous les ans, il supplie Augustin Lemercier de recourir à la force publique pour empêcher le sacrilège de se perpétuer. Ce à quoi le maire rétorque invariablement qu'il n'existe aucune loi interdisant à un citoyen de manger du saucisson sur la voie publique au passage d'un cortège. Voilà ce petit passage. Ça nous montre aussi quand même que la société a évolué depuis, oui. depuis le temps, parce qu'aujourd'hui, déjà, il n'y a plus de procession hein, pour le Vendredi Saint. Et puis, voilà, ça prête à sourire qu'on ait besoin de provoquer comme ça pour dire son mécontentement.
Ça n'empêche que j'ai connu cette ambiance assez chaude dans ma prime jeunesse. Hein. Ça a disparu, mais jusqu'à
l'âge d'à peu près 12 ans. Vous n'êtes pas né en 1920, vous avez encore 50 ans de plus.
Encore un peu, c'était encore un peu comme ça jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 10 ans à peu près.
D'accord, bon. Très bien, on peut faire peut-être une première pause musicale hein. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on écoute en premier?
Là, Brassens.
Alors on va écouter Brassens.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfécit. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Vous êtes toujours sur Radio Sud Plus. Ce matin, on parle de Crosse en l'air, publié par Dominique Maraval de Bonnery. Donc un livre dont on a situé un peu le contexte. Hein. On va parler des prémices de la guerre de 14 et puis ensuite de tout ce qui se passe jusqu'aux mutineries de 17. Et puis alors dans ce livre, ce qui est attachant, vous voyez, bien sûr, vous auriez pu tout simplement parler de cet événement comme un article historique, mais on va voir justement les personnages et leur évolution, comment ils en sont arrivés là. C'était des braves petits gars, on va dire, quelque part. Et puis, il y a une amitié déjà improbable qui se noue entre le fils du châtelain et puis le fils du maréchal Ferrand. Donc, on a vu hein, que tout oppose socialement au niveau des idées. Donc, c'est une belle amitié qui commence avant même la guerre, alors que le maréchal Ferrand, son fils, il va faire un peu du braconnage et il est attrapé une fois, deux fois, et enfin finalement
par le garde-chasse du baron.
Par le garde-chasse du baron, on verra. On ne dit pas comment il va finir, mais bon, il n'emportera pas au paradis celui-là. Et malgré tout, le fils du châtelain, qui voit juste un jeune de son âge, hein, va se lier d'amitié avec lui parce que il le chope une deuxième fois. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je vous accepte aussi que je lise un petit passage de ce livre à ce
moment-là ?
Bien
sûr.
C'est... Bon, écoute-moi bien, le braco. Je ne vais pas te dénoncer à cette crapule de régisseur, mais en échange, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher à la main. Comme tu peux l'imaginer, ce genre de pratique manque à mon éducation de fils de bonne famille. Surpris par la tournure des événements, Floréal ne tarde pas à répondre favorablement à cette proposition, avantageuse à plus d'un titre. En effet, cette offre le dispense d'une double correction, la première à la gendarmerie où le brigadier-chef lui ferait payer au prix fort sa récidive, la deuxième à la maison où son père ne lui pardonnerait pas une nouvelle déconvenue en terre baroniale. Aussi, avant qu'Amaury ne change d'avis, Floréal l'invite à le rejoindre dans la rivière. Il va lui enseigner les premiers rudiments de la pêche à la main. Le jeune baron s'aperçoit assez vite que la discipline requiert une bonne acuité visuelle. En effet, tout bon braco doit avoir une vue performante, un œil privilégié, la traque du poisson, tandis que l'autre surveille à l'arrière la possible irruption d'un dépositaire de la loi. Élève appliqué, Amaury suit à la lettre les conseils de son nouvel ami. En moins d'une demi-heure, il attrape de belles truites. Grand seigneur, il les jette dans un panier en osier de Floréal. Donc voilà, comment naît une amitié donc autour de parties de pêche.
Des... Ils ont un ennemi commun quand même, qu'elle garde chasse, ouais,
régisseur. Oui, il l'aime pas, oui.
Il l'aime pas.
Et puis bah, on va voir bah, comment ces jeunes évoluent, comment les choses se passent.
Alors il y en a un qui est à l'école publique, c'est le fils du maréchal Ferrand anarchiste, et l'autre est à l'école des bonnes sœurs, comme
forcément,
se doit
hein.
Tout fils de la bonne bourgeoisie. Et bon, alors évidemment, quand il y a la neige, il y a des bagarres à coups de boule de neige à la sortie de l'école, entre les deux écoles. Bon, comme les gars de la publique sont plus nombreux, quoi, si, ils dévastent un peu les gamins de l'école religieuse et les filles de l'école religieuse.
Bien sûr.
Qui s'en ramassent plein la tête, quoi.
Voilà, donc ça commence comme ça. Et puis, bah, ils vont se suivre. Finalement, ils sont tous les deux aussi sous la coupe de leur père.
Voilà.
Ça, c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être, on a moins.
C'est pas la même férule, mais c'est pas rigolo.
Voilà, donc, il y en a
un
qui doit faire des études parce que son père le veut, ouais. La dictée, etc. L'autre lui a dit, bah, non, tu vas venir travailler avec moi. Et malgré tout, bah, voilà, ils ont ces moments de liberté entre eux, quoi.
Voilà, ils se retrouvent les week-ends, notamment pour la traditionnelle partie de foot.
Tout à fait. Alors, ce qui va un peu sceller leur destin, on va dire militaire, c'est cette première... Alors, vous décrivez en détail ce conseil de révision. Alors, est-ce que vous pouvez dire un peu, bon, ça correspond à quoi, les 3 jours ? Aujourd'hui, on aurait quoi ?
Ça correspond 3 jours, mais là, ça durait une après-midi.
Oui.
Alors, généralement, ça se passait au chef-lieu d'arrondissement du département. Très souvent, pour 90% des gamins, c'était la première fois qu'ils sortaient du village.
Donc c'est un peu un bizutage qui se passe.
Oui, bah c'est un bizutage collectif. Quoi.
Voilà, c'est ça, ils vont tous devenir
alors,
des hommes.
Alors ils se saoulaient comme c'est pas possible, quoi, parce qu'ils s'enivraient, surtout s'ils étaient bons pour le service. Qui disait bon pour le service disait bon pour les femmes à l'époque.
Donc les deux vont de pair,
bon pour les femmes. Et à la sortie du conseil de révision, alors ils défilaient dans les rues du chef-lieu d'arrondissement, ils allaient manger, et puis il y avait un bal. Alors,
ouais.
Ça se passait plus ou moins bien, mais les gars restaient jamais trop longtemps en bal. Ils allaient plutôt directement au bordel de la ville.
Ouais, donc c'était aussi l'initiation.
Ils se déniaisaient. Avec plus ou moins de bonheur.
Ouais, donc alors on va suivre nos deux héros, mais aussi vous avez plusieurs personnages secondaires qui sont...
L'idiot du village.
Voilà, notamment. Donc l'idiot du village que vous décrivez, qui a aussi un destin un peu particulier. Et donc tous ces personnages secondaires sont un peu truculents, on les voit aussi...
Alors l'idiot du village, tout le monde... bon, en fin de compte, j'ai pris 3 personnages qui étaient un peu... simple d'esprit dans le village, j'en ai fait un en regroupant toutes les conneries qu'on leur avait fait faire, quoi, parce que l'histoire du train, bon, elle est arrivée. Et puis la chasse aux dahus, ils sont allés plus souvent qu'à leur tour du village, et puis on leur faisait, mais alors on leur faisait faire des bêtises, mais c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, on les défendait quand même contre des grands dangers, quoi. Il y avait une surveillance, une assistance collective pour pas les mettre en danger, quoi. Aujourd'hui, les idiots du village, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 36 dans les villages maintenant, et puis personne ne les défend, hein, ça c'est ça. Donc ça a bien changé.
Puis les attaques seraient beaucoup plus sur les réseaux, des choses
voilà.
Comme ça, que
et puis,
de
plus
façon sournoise, beaucoup plus
méchante,
sournoise et
plus
méchante.
Voilà.
On parlerait d'harcèlement.
Voilà.
Bon, là, c'était pas vraiment du harcèlement, mais enfin, on se privait pas non plus de se moquer de lui. Hein,
on se moquait de lui quand même, quoi.
Donc il a, il sait pas encore sa chance. Lui, il va pas partir à la guerre puisqu'il est réformé. Et puis on va voir que suite à cette fierté d'avoir, ils sont inscrits, ils ont fait cette première journée, ils ont tous envie d'aller en découdre. Ça c'est aussi l'ambiance.
Ils sont persuadés que ça va être réglé en 3 mois la guerre.
Ouais.
Ils vont vite, très très vite déchanter.
Donc ils partent. Alors on les voit partir, la fleur au fusil, un peu tout le village les encourage, sauf le maréchal Ferrand, bien sûr.
Qui est le seul contre tous, qui est le seul contre les gens de droite et de gauche, parce que c'était l'union sacrée à l'époque, à gauche comme à droite, tout le monde voulait se venger de la défaite subie en 1870 avec la Prusse, qui avait annexé l'Alsace et la Lorraine, et tout le monde voulait récupérer l'Alsace et la Lorraine, donc il fallait se battre contre les Allemands, tout le monde voulait la guerre, à gauche comme à droite, sauf les anarchistes.
Alors les élèves qui y sont aussi, c'est un peu un cours d'histoire, on révise aussi ce contexte de la Première Guerre, donc peut-être que les auditeurs qui nous écoutent, les jeunes qui ont ce programme, alors...
Il paraît que c'est ton programme, alors Les Mutins de 1917,
donc,
il paraît que depuis
cette
année...
Ils peuvent lire le livre, parce que ça permet d'ancrer aussi les choses...
C'est inscrit au programme des collèges depuis cette année, les Mutineries de 1917.
Est-ce que vous pourriez aller faire des conférences aussi,
parler,
sans
doute.
Moi je veux bien,
si on m'invite, je veux bien.
Alors voilà, c'est une... c'est une invitation, parce que c'est vrai que d'avoir des personnages dans un contexte historique, ça permet de mieux comprendre, peut-être de mieux mémoriser tout ce qui s'est passé dans ce contexte. Donc les jeunes vont très vite déchanter, puisque la réalité de la guerre et des tranchées va vite les rattraper. Vous donnez des chiffres ahurissants que tout le monde a appris, mais qu'on a oublié, que dans les premiers mois, il y a eu déjà des centaines de milliers de morts. Dans les premières batailles, parce que ils n'étaient pas préparés.
Et les Allemands, eux, étaient préparés, par contre. Alors, dans les tranchées, les Allemands s'arrangeaient toujours pour avoir des situations en hauteur, de manière à bien voir venir l'ennemi. Donc, ils canardaient les Français comme des pigeons. En plus, à l'époque, au début de la guerre, ils avaient un uniforme très voyant, culotte rouge et tout. Donc, ils étaient plus que prévisibles. Et les Allemands les dégommaient, comme une chasse aux tueurs aux pigeons, à peu près.
Oui, tout à fait. Donc on les voit alors au départ, ils arrivent, ils doivent faire leur classe, ils doivent apprendre un peu leur boulot. Et puis l'arrivée aux tranchées, je trouve qu'elle est assez impressionnante, parce que c'est là qu'ils se rendent compte de la réalité de ce que c'est la guerre.
C'est la sous-alimentation, le mal logement, les rats, la malbouffe, tout.
Alors on va lire un petit passage. Les anciens servent de guide dans ce dédale de tranchées parsemées de trop rares caillebotis. Les hommes patochent dans la boue pour accéder à leur segment de tranchées. La glaise tapisse le sol et procure l'étrange impression de progresser avec 50 kilos de terre accrochés à chaque pied. Les rats animent cette visite organisée. Vu leur taille, on les prendrait presque pour des chats. Après une demi-heure de tribulation dans ce cloaque, la section des gardes Fombelle arrive enfin à l'abri, censée les loger pour la nuit. Une flagrance à la limite du soutenable émane de cet édifice protégé par d'importantes masses de terre. À l'intérieur, les paillasses jonchent le sol. Les matelas de fortune dégagent des effluves d'urine et d'excréments à peine séchés. L'atmosphère est irrespirable. C'est la consternation chez les arrivants. Devant ce spectacle peu engageant, Floréal annonce la couleur. « Moi, je préfère coucher dehors plutôt que dans ce taudis. »« On en reparlera d'ici quelques jours, » lui rétorque un ancien, visiblement rompu aux joies des premières lignes. Histoire d'enfoncer le clou, il ajoute en guise d'avertissement. « Quelques assauts suivis de plusieurs nuits à la fraîche te feront vite changer d'avis, mon camarade. » Voilà, cette description. Vous avez dû sans doute beaucoup vous documenter
J'ai 8 mois de recherche historique avant de commencer le bouquin.
D'accord, donc est-ce qu'il y a d'autres livres qui vous ont inspiré, des romans ou des livres historiques eux-mêmes?
Oui, il y a les Paroles de Poilus, édité par France Inter, qui est un peu la bible des lettres que les Poilus ont envoyées à leur famille pendant la guerre. D'ailleurs, je vous expliquais un peu l'origine du bouquin. Le bouquin m'a été inspiré par une expo de courriers de Poilus que les soldats de Fombelle envoyaient à leur famille pendant la guerre de 14. Et il y a eu un retraité, Ben Lave, qui est un ancien ingénieur chez Michelin, qui a eu l'idée de faire une expo. Il a demandé aux gens de lui faire parvenir toutes les lettres que les Poilus envoyaient à leur famille pendant cette guerre. Et le témoignage qui m'a fait le déclic pour écrire un bouquin, c'était un gamin de 20 ans qui était lieutenant à 20 ans. Vous imaginez le massacre qu'il y avait eu pour qu'on nomme des gamins de 20 ans lieutenant. Il écrivait à ses parents. Mais voilà, ce matin, on est parti à l'assaut d'un fortin allemand imprenable, comme d'habitude. Et on est parti à 1200, on est rentré à 300. Demain matin, on y retourne. Donc demain soir, je serai mort. Mes chers parents, je vous fais mes adieux.
Ah, vous me donnez frisson. C'est vrai, quand on a des documents historiques véritables, on a une émotion qui est autre.
C'est ça, c'est cette lettre qui m'a donné envie d'écrire le bouquin.
Donc,
et c'est un peu, bon, c'est un peu Amaury. Hein, voilà.
Bah, ouais, on imagine. Oui, il y a aussi donc un certain nombre de lettres qui sont retranscrites. C'est des originaux ou bien c'est...
Il y a des originaux. J'en ai inventé quelques-unes et j'en ai pris quelques-unes. Je cite mes sources.
Bien sûr. Et ce que j'allais dire, oui, vous avez aussi, vous dites qu'il y avait en plus certaines lettres qui subissaient la censure, que pas toutes les lettres, ils arrivaient à dire vraiment l'horreur de cette guerre.
Ben oui, parce qu'il ne fallait pas savoir où ils étaient, il ne fallait pas qu'on sache où ils se trouvaient, il ne fallait pas donner le moral des troupes, parce que si l'armée allemande tombait dessus, on détournait, voilà, c'était... Les méthodes d'intoxication ne datent pas de la guerre Ukraine-Russie.
Tout à fait. Donc moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est le poilu réunionnais que tout le monde va retrouver. Donc vous parlez aussi de ces troupes qui sont arrivées. Alors on a plus de mal à trouver de la documentation. Est-ce que vous savez combien de réunionnais ont participé à la guerre de 14?
D'après ce qu'on disait, entre 5 et 10 000. Qui ont le statut d'anciens combattants, mais il y en a beaucoup qui sont allés, parce qu'on les a regroupés à Madagascar.
Au départ, donc voilà.
Où beaucoup sont morts de maladies tropicales.
Oui.
Donc, il y en a très peu qui sont arrivés jusqu'en métropole, pas beaucoup.
Ouais.
Et puis, il y en a qui ont été fauchés dès leur arrivée, quoi. Notamment ceux qui ont débarqué dans les Dardanelles. Il y en a qui ont coulé sur les bateaux qui devaient les faire débarquer et tout. Et puis, ils n'étaient pas habitués au froid et tout.
Ils étaient
souvent sous-alimentés à La Réunion, donc ils arrivaient dans des conditions physiques.
Moi, on m'a dit qu'il y en a déjà beaucoup qui n'étaient pas partis parce qu'ils n'étaient pas suffisamment en forme. J'ai regardé dans ma famille, il n'y a personne qui a fait la guerre. Oui. J'ai personne de qui être fier ou pas, je ne sais pas. Et le seul dont j'ai retrouvé le livret militaire, il disait qu'il avait eu le palu et qu'il était trop rachitique, ou en tout cas pas suffisamment en forme pour partir.
Mais il y en a quand même qui sont partis et qui se sont révélés passer en forme suffisante pour être toujours en première ligne. Donc généralement, il s'arrangeait après pour les mettre un petit peu à l'arrière, en soutien.
Alors, le personnage que vous choisissez, en plus, il est chinois. Donc, les gens qui le voient arriver, ils ne comprennent pas vraiment ce que ce type vient faire là.
C'est un martien, parce que c'est la première fois qu'il voit des gens de couleur.
On va peut-être lire un petit passage aussi. Moi, ça m'a marqué comment vous avez décrit ce gars-là qui arrive là comme ça. À l'inverse de Roland Garros, qui a fait ses études en métropole, l'immense majorité des volontaires réunionnais n'a jamais foulé le sol hexagonal. Au-delà de l'élan patriotique qui les anime pour beaucoup, ce voyage offre l'opportunité d'échapper au double fléau qui sévit sur leur île, la malnutrition et le paludisme. C'est vrai que pour eux, c'était peut-être la seule occasion de pouvoir partir.
Gars au conseil de révision, pareil.
Oui, ils pensaient que c'était une colonie de vacances, ils allaient voir le pays, etc. Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Donc, dans un premier temps, ils sont regroupés à Madagascar pour y recevoir les premiers rudiments de formation militaire. Beaucoup sont répartis sur le front des Dardanelles. D'autres se retrouvent dans le nord-est de la France dès mars 1915. Peu habitués aux températures hivernales, ils sont nombreux à tomber malades dès leur arrivée. Comme si la maladie ne suffisait pas, ils reçoivent en plus un accueil pour le moins mitigé de la part des combattants métropolitains. Les officiers les méprisent, les hommes du rang voient en eux des étrangers. Nombre de poilus natifs de nos campagnes profondes côtoient pour la première fois des gens de couleur. Ils se demandent pourquoi ces hommes, si éloignés de leur mode de vie, ont franchi les mers pour se jeter dans un conflit qui ne les concerne pas. Cette incompréhension, Jean-Alfred Lautam, jeune métis chinois au teint mat, en prend toute la mesure le jour où il débarque dans la section des poilus de Fombelle. Son arrivée ne passe pas inaperçue. Les gars l'observent comme une bête sauvage sortie d'un album illustré. Leur suspicion dépasse de loin leur curiosité. Un silence lourd de sous-entendu accueille le nouveau venu. Pour Amaury, le plus instruit de la bande, il devient urgent d'intervenir. Pour briser la glace, il engage le dialogue avec le nouveau venu. « Alors l'ami, d'où est-ce que tu viens ?»« De la Réunion, lui répond le jeune créole. Un brouhaha entremêlé de rires gras s'ensuit. La même question idiote revient une nouvelle fois sur le tapis. La réunion ? On n'a jamais été invité à une réunion depuis qu'on est ici. Alors de quelle réunion tu nous parles ? Rétorque l'un des poilus de Fombelle. L'île de la Réunion. Mais c'est où ce bled ? Demandent d'une seule voix les cœurs des ignorants. C'est une île dans l'océan Indien, à côté de Madagascar. Ah, Madame Gaspard ! Lui répond alors le comique de service, tout à sa joie de provoquer l'hilarité générale. Pressentant le choc des cultures, que les chocs des cultures risquaient de dégénérer, Amaury s'improvise alors professeur d'histoire-géographie et se lance dans un exposé décidé à éclairer ses camarades. Donc voilà, ils savent pas où c'est, ils sont voilà. Et oui, puis ben voilà, ce qui va les retenir, c'est que c'est Bourbon et qu'eux viennent du Bourbonnais, donc ils sont potes.
Moi-même, quand je suis parti à la Réunion en 77 pour faire mon service militaire, dit ah tu vas aux Antilles alors.
Oui, c'est vrai qu'il y a encore pas longtemps, on se situait très très mal.
Alors, hein. Vous imaginez en 14.
Ouais, on imagine bien. Et puis ben alors après, on évoque à nouveau encore ce jeune poilu, c'est quand il y a une permission. Oui. On lui dit, bah, toi par contre, si tu reviens, on pense pas que tu vas revenir. Fuis, ne reviens pas dans cette horreur.
Et c'est ce qu'il fait.
Donc oui, on imagine que tous ceux qui auraient pu fuir, une fois qu'ils ont goûté au front, bah, ils n'ont aucune envie de revenir. Hein.
Bah, ils arrivaient sur place à La Réunion. Après, ils avaient 2 mois de bateau pour venir,
oui.
1 mois de permission et 2 mois pour revenir en bateau. Et la première chose qu'ils faisaient en arrivant à La Réunion, c'était d'aller voir un médecin pour essayer de se faire exempter pour ne pas retourner.
Bah oui, on peut comprendre.
Et les médecins étaient assez cons à l'époque pour leur refuser ça, parce qu'ils ne connaissaient pas les horreurs de ce qui se passait là-bas. Donc les gars, au moment de repartir, les trois quarts, ils faisaient comme les marrons. Hein. Ils allaient dans les hauts, ils allaient se réfugier dans les hauts, se cacher, soit dans des familles. Et les gendarmes, ils recherchaient, mais enfin, disons, avec une grande modération
quand
même. Pas trop quand même.
C'est bien.
Voilà, donc, mais il y en a quand même qui se sont fait prendre, qui ont été renvoyés de force en métropole.
Et donc, qui pensent. Ça nous amène à la transition sur la pause musicale, puisqu'on va écouter cette chanson que vous avez choisie, donc Le Déserteur.
De Boris Vian.
Voilà, on revient juste après.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Radio Sud Plus Réunion, la sensation.
Radio Sud Plus Réunion.
Vous êtes toujours sur Page en Partage. Ben, on continue de parler de Crosse en l'air. Donc, le bouquin a été publié déjà il y a maintenant quoi, presque une année, non, c'est ça ?
À peu près, oui.
Donc, il s'est bien vendu, il est bien accueilli. En tout cas, tu l'as bien diffusé.
Oui, j'ai fait un maximum, j'ai diffusé ici et en métropole. Voilà, donc
c'est un thème qui n'est pas facile, mais on ne peut pas t'accuser de dire que des choses qui n'existent pas. C'est l'horreur de la guerre, hein. Cette guerre, toutes les guerres en fait. Hein,
oui.
Pour le moment, on a la guerre en Ukraine, on n'entend pas trop parler, mais on imagine bien que...
Il se passe exactement la même chose, pour la chair à canon, il se passe exactement la même chose du côté russe et même du côté ukrainien.
Donc voilà, ces jeunes bah, qui sont envoyés au casse-pipe. Donc quand ils reviennent en permission, quand même, ils n'ont plus envie d'y retourner. Quand même. Ça se sent que, voilà, ils voient bien l'inutilité, etc. Et puis, bah, ils n'ont pas le choix, en fait, il faut dire ça.
Oui, on les force à un destin. Bon, il y a quand même un grand responsable dans cette affaire, un type qu'on appelle le père de la victoire, c'est Clémenceau.
Oui.
Et moi, je l'appellerais plutôt le père de la boucherie, parce qu'en 1916... Le pape a fait une tentative de médiation entre l'empereur d'Autriche et son cousin belge, qui était soldat avec les alliés.
Mm-hmm.
Et c'était assez bien avancé, et Clémenceau, dès qu'il a appris ça, il était furieux, donc il a fait capoter la tentative de médiation de paix, parce que ça ne venait pas de lui. Et puis surtout, Clémenceau, ça a été démontré, il voulait mettre les Allemands le genou à terre, c'est-à-dire qu'il voulait... l'humiliation, il a imposé un traité d'armistice particulièrement humiliant pour l'Allemagne, qui n'a eu qu'une idée en tête à partir de 1918,
ouais,
se venger. Donc la Deuxième
c'est
Guerre mondiale, la vengeance des Allemands, on le doit beaucoup à celui qu'on appelle à tort le père de la victoire, Clémenceau. Moi je l'appelle le père de la boucherie, parce qu'avec le traité de paix, la tentative de paix qui était organisée par le pape, la médiation organisée par le pape en 1917, Clémenceau a tout fait l'empêcher, et ce qui a été l'occasion ce qui a occasionné plus d'1,5 million de morts supplémentaires. Voilà. Donc Clémenceau, c'est pas un type intéressant. Ça, il faut pas. Non, non.
Bon, bah ça c'est.
Il faut pas raconter n'importe quoi.
Ok. Alors dans le roman, en fait, ben on va vers ce dénuement. C'est-à-dire ces jeunes, c'est aussi des héros. Ils ont essayé de sauver les gars de leur compagnie, etc. Ils ont fait des actions qui montrent leur courage. Mais là, c'est la bataille de la Somme. Hein, c'est à la fin. Ils n'en peuvent plus, quoi. Alors, quelques mots sur cette bataille. Tu nous rappelles un peu de trois choses.
Elle était totalement impréparée. Comme à chaque fois, hein, souvent, les tirs d'artillerie étaient pas précis. Donc, les défenses allemandes, les tirs d'artillerie étaient censés détruire les premières lignes allemandes, trois quarts du temps. Et en plus, les Allemands avaient su par leur service de renseignement que les Français organisaient une offensive. Donc, ils avaient reculé leur ligne de front. Et donc l'artillerie française a bombardé des zones qui étaient inoccupées. Donc quand les soldats français sont arrivés devant les premières lignes, ben c'était plein de fils de fer barbelés et c'était infranchissable. Et ils se faisaient dégommer comme des lapins en plein champ.
Donc ça, les jeunes s'en aperçoivent bien. Il ne faut pas être grand stratège pour s'apercevoir.
Et puis
qu'on les envoie vraiment
dans les premiers qu'on a envoyés, il y a une petite anecdote, c'était quand même les tirailleurs sénégalais. Alors qu'ils ne regroupaient pas que des tirailleurs sénégalais, que des Sénégalais, il y avait tous les peuples de l'Afrique. Et le premier jour, on les envoyait à l'assaut, ils sont partis à 8000, il y en a 5000 qui sont restés sur le carreau.
Ça fait quand même beaucoup, on a du mal à s'imaginer ça.
Et cerise sur le gâteau, on a attendu plus de 40 ans pour verser une pension militaire aux survivants.
Donc tout ce qui était sénégalais, tout ça.
Voilà, sénégalais africain, quoi, oui, parce que c'était le générique pour tous les Africains qui étaient engagés de force dans l'armée française à l'époque, comme on le voit dans le film qui a tourné Omar Sy il n'y a pas très longtemps.
Mmh, oui, tout à fait. Donc voilà, on arrive à la fin du livre, et c'est le moment où tu parles de ces mutineries, parce qu'on voit nos héros qui étaient quand même patriotes, qui étaient de bonne volonté, qui se font qui finissent par dire non, on n'en veut plus, et on peut comprendre.
Alors là, il y a une sévère répression, et les gars qui étaient arrêtés passaient en cour martiale. Généralement, ils avaient droit à un avocat de la défense, mais qui était un soldat pris comme ça au hasard, qui prenait connaissance du dossier 5 minutes avant la séance. Mmh. Et puis, dès qu'il voulait faire un peu de... pas d'esbrouf, mais essayer de défendre son client, quoi, son copain, on lui disait non, de toute façon, laisse tomber, on a déjà décidé à l'avance, il est condamné à mort. Alors, condamné à mort, ça ne veut pas dire qu'il était fusillé. C'était commué en peine de...
d'imperpétuité, ou bagne, etc.
Bagne, ouais, c'était. Mais il y en a eu quand même 40 qui ont été fusillés quand Pétain a pris la direction des affaires au niveau militaire. Parce qu'il a supprimé le recours en grâce au président de la République.
Mince.
Mais alors en même temps, l'histoire n'en a pas trop voulu, parce que Pétain, même dans tous ses généraux, paradoxalement, c'était un des plus humains, parce que quand il a pris...
C'était le moins pire.
C'était le moins pire, parce que quand il est arrivé, il a amélioré l'ordinaire des soldats, les soupes enfin arrivaient chaudes, la nourriture n'était plus pourrie, il a quadruplé la ration de vin, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un quart de litre, c'était passé à un litre à la fin.
Ouais.
Comme disaient les anciens de Verdun, à Verdun, de temps en temps, on a manqué d'eau, mais jamais de vin.
Ce qui revenait, il revenait alcoolique de toute façon.
Voilà. Donc il a amélioré l'ordinaire, ouais. Mais quand même, il a eu un aspect répressif assez important, quoi, je veux dire.
Est-ce que, si on était un peu utopique, est-ce que des mutineries ont jamais stoppé des guerres? Est-ce que, on comprend que les jeunes... Si tous les jeunes arrêtaient de dire « nous, on ne veut plus y aller », est-ce que la guerre s'arrêterait?
On trouverait encore
d'autres chairs à canon ailleurs.
Ouais, il faut que ce soit un mouvement de masse généralisé, pour que ça parvienne à arrêter la guerre. Hein.
Donc ça va être compliqué.
Alors l'origine des crosses en l'air, c'est pas parti de... L'origine, c'est pas les... C'était pas pendant la guerre de 14, c'était en 1905 où il y a eu une révolte des vignerons du côté de Montpellier. Et les gars ont manifesté, et en face d'eux, ils avaient des soldats, parce qu'à l'époque on faisait le service militaire sur place.
Mm-hmm.
Et en face d'eux, là, on envoyait la troupe, et les gars qui étaient en face d'eux dans la troupe, c'était leurs frères, leurs cousins et tout. Et à un moment, un officier leur a dit « bon, tirez dans le tas ». Et les gars, voyant leurs frères, leurs cousins, ont mis la crosse en l'air.
Ouais.
Et c'est depuis cet épisode-là que les jeunes Français ne faisaient plus leur service militaire à côté de chez eux. On les envoyait à l'autre bout de la France pour ne pas être confrontés à ce genre de situation.
D'accord, ça c'est un événement que je ne connaissais pas aussi. Ouais, voilà.
Je l'ai appris. Okay. Moi aussi, en me renseignant, en cherchant des informations sur la guerre de 14.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'après la guerre, il n'y a plus cette lutte des classes qu'on retrouve au début? Parce que ils ont fait le front ensemble, ou bien les choses sont revenues
après, c'est revenu à la normale.
C'est revenu un peu à la
normale. Les
vieilles
habitudes sont revenues. Chacun est rentré dans son camp. Voilà. On a fraternisé pendant 2 ou 3 ans. Puis après, les vieilles querelles et les luttes de classe ont repris le dessus.
Très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voudrais dire sur ce livre?
Je suis en dédicace à Saint-Pierre,
des dédicaces,
le samedi 16 à la librairie Autrement à partir de 14h. Venez nombreux. Si vous avez envie de lire des choses sur la guerre, des choses un peu inédites. Voilà. Et je n'ai rien inventé, je précise, parce que je n'ai rien inventé. Tous les témoignages, je les ai pris dans des archives historiques référées.
Très bien. À tous, je souhaite de découvrir ce livre, donc Crosse en l'air, édité chez Orphy. Une couverture rouge avec les soldats dessus, pour bien vous situer. Et puis, merci à toi, Dominique de Maraval, d'être venu nous voir à Radio Sud+. Plus. Et puis bah, on attend au prochain.
Je viendrai vous le vendre. Même si ça ne parle pas de La Réunion, je viendrai quand même vous le vendre.
Et ben nous, on est contents de rencontrer tous les gens qui écrivent à La Réunion sur les sujets qui leur font plaisir, que ce soit de La
Réunion
ou pas.
Le prochain, ça sera la Deuxième Guerre mondiale, de 1942 jusqu'à la libération et surtout l'épuration.
Très bien. Ben, vous pouvez nous retrouver sur le site Facebook de Page en Partage, nous donner aussi vos impressions de lecture si vous avez lu ce livre, si vous en avez lu d'autres, ou si vous voulez aussi partager autour de la littérature en général. Merci à vous tous, amis auditeurs, de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine. On se quitte en musique avec Le Temps des Cerises.
Le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.